en dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est son éditrice Anne-Marie Métellier qui le raconte sur le rabat de la couverture. Lorsqu'elle a rencontré Santiago Gamboa en 1995, il était journaliste à RFI et venait d'écrire son premier roman. Il en est aujourd'hui au 8e, sans compter plusieurs essais. C'est donc un romancier, mais surtout un grand conteur que nous avons rencontré à Saint-Malo, où il participait au festival Étonnant Voyageur. Et nous avons évoqué avec lui son nouveau roman, un polar plein de verve, de truculence, avec des personnages complexes et fascinants. Un livre plein de violence et d'humour, arrosé de gin tonic, qui nous emmène dans la Colombie contemporaine. Des Hommes en Noir, traduit de l'espagnol par François Gaudry, et publié aux éditions Métellier. Et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Santiago Gamboa.
Bonjour.
L'un des personnages principaux du roman, c'est un procureur d'origine indienne qui s'appelle Edison Rustinyamuy. Et il porte sur la Colombie un regard sans illusion. Il parle d'une Colombie gisement d'ossements, d'un pays rongé par la méchanceté. Un pays unique au monde qui enfante à la fois, je vous cite toujours, qui enfante à la fois des personnes de grande valeur et les assassins qui les tueront. Et il ajoute le véritable pays de Caïn, c'est la Colombie. Ce genre de phrase revient très régulièrement dans votre livre, Santiago Gamboa. C'est le regard du personnage sur la Colombie ou c'est le vôtre?
Je pense que c'est le regard que moi-même j'ai de la Colombie aujourd'hui. Et surtout depuis tous les événements politiques qui se sont suivis dans les derniers 4 ans. Concrètement, le processus de paix qui a été soigneusement fait et négocié pendant 5 ans à La Havane et qui ensuite la majorité de la population a rejeté. Et donc, déjà, on se rend compte qu'on est devant une situation qui n'est pas normale. Comment ça se fait qu'un pays, une société, rejette un processus de paix? C'est vrai que ça a été une majorité et très, très faible. Ils ont gagné pour 50 000 voix sur une votation de 10 millions. Mais ils ont été conduits par des gens d'extrême droite, par les églises évangéliques qui sont d'extrême droite, et par d'autres pouvoirs. Ça a été un peu un phénomène de post-vérité, comme le Brexit, comme Trump, et comme ça. Et ça a été la même année, d'ailleurs, le 2016. Donc, à partir de là, on retrouve cette réalité.
Alors, le procureur en question est surnommé le chat sauvage. Il est d'origine indienne. Est-ce que cette origine-là change son propre regard sur la réalité de son pays?
Mais en fait, moi, j'ai voulu faire un personnage différent d'un blanc de Bogota et quelqu'un qui puisse connaître le pays, un pays si multiforme et si divers que la Colombie. Moi-même, je suis de Bogota. Je suis parti quand j'avais 19 ans en Europe. J'ai vécu pendant 30 ans après. Et quand je suis rentré, je me suis rendu compte que moi, je connaissais pas mon pays. Et donc, j'ai commencé à voyager dans les régions, à connaître tout. Et je me suis rendu compte que le regard qu'on a de Bogota, c'est un regard absolument aveugle par rapport à ce qu'on connaît de la Colombie quand on regarde la réalité depuis un autre point de vue.
Alors c'est vrai que la Colombie est un pays qui est très grand, qui est très diversifié, très varié, un pays magnifique. On s'en rend vraiment compte dans votre livre, il y a la jungle, mais pas seulement. Un pays qui, effectivement, malgré le processus de paix avorté, est un pays qui est encore extrêmement violent. La violence est vraiment omniprésente. Les paramilitaires sont toujours là, ils sortent parfois du bois. En tant que Colombien, vous pourriez en ressentir de la souffrance, mais on se dit aussi qu'en tant que romancier, c'est du pain béni.
Ben oui, très souvent, ce qui est bon pour les romanciers n'est pas bon pour la société. Mais et c'est ça, les pays qui ont des souffrances sont paradoxalement des moments dans lesquels les arts ont un grand fleurissement. On l'a vu en France et en Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, après la guerre franco-prussienne de 1870 et 11. Et puis dans d'autres pays et dans d'autres coins du monde, c'est toujours pareil, parce que tout ce qu'on ressent au niveau social, on le ressent aussi au niveau individuel. C'est comme quand on est en crise personnelle, on est plus créatif. La félicité est enfin en soi-même. Elle n'a plus besoin de rien. On pense plus, on réfléchit plus. Et au niveau des sociétés et des pays, c'est pareil. Là, je vous fais juste une petite remarque. En fait, la Colombie n'a pas aborté finalement le processus de paix, parce qu'il a, même s'il a été, et disons, le non au processus de paix a gagné, et là, après des changements, il a été adopté par le Congrès, mais par une voie différente. Mais de toute façon, l'idée, c'est la même. L'idée, c'est que la moitié de la population ne voulait pas.
La violence est donc omniprésente dans vos pages, le crime, la corruption financière, mais aussi la corruption des esprits, la corruption des mœurs aussi. Et la violence, on va commencer par la violence, Santiago Gamboa. C'est ce qui fascine aussi vos deux personnages féminins. Il y a Julieta Lezama, qui est une journaliste indépendante, elle est aguerrie, elle a quelques petits, même quelques gros problèmes avec la boisson. Elle aligne les jeans toniques avec un certain savoir-faire. Sur le rabat d'ailleurs de la couverture, votre éditrice Anne-Marie Métellier vous décrit notamment comme un grand spécialiste des bars et des cocktails des grands hôtels. Donc il y a peut-être un petit peu de vous dans le personnage de Julieta ?
Oui, bien sûr. Moi, je pense que dans le roman noir, il doit toujours avoir un peu d'alcool. Il y en a beaucoup, mais je suis la tradition un peu des romanciers américains. Moi, je n'utilise pas des détectives parce que je considère que c'est absolument inverosimile et pas croyable en Colombie. Mais cette tradition-là, ça me vient. En plus, le roman noir, c'est surtout une tradition anglo-saxonne dans laquelle il y a toujours un bon verre de whisky, de vin, c'est lui qui pense, c'est lui qui enquête. Et puis, le fait que ce soit deux femmes qui font des enquêtes, ça me plaît, ça m'a plu dès le début. Un journaliste, parce que j'ai été journaliste aussi pendant presque toute ma vie. Et je pense que les journalistes, c'est un personnage romantique aussi, qui fait des enquêtes, et que quand il connaît la vérité, il n'y a pas le triomphe de la loi. Et ça me plaît encore plus.
Alors elle a une assistante à cette journaliste qui s'appelle Julieta Lezama. Son assistante, elle s'appelle Johanna. Mais Johanna, alors elle sait taper à la machine, elle fait un petit travail de secrétariat, mais elle a aussi beaucoup d'autres talents, et notamment parce que elle sait manier les armes. C'est une ancienne guérillera au sein des FARC. On ne se départit jamais complètement de son passé lorsqu'on a cet héritage-là.
C'est très courant de se retrouver avec des gens qui ont fait les FARC. Et parce que c'est des gens qui ont déjà, les ex-combattants sont déjà dans la vie civile, ils ont été aidés par le gouvernement pour créer des petites entreprises, donc il y a énormément de rapports avec eux, et c'est quelque chose qui pour moi est la chose la plus importante du processus de paix. Ça veut dire il n'y a plus une espèce de Colombie cachée, et qui maintenant sont redevenus des Colombiens comme tout le monde.
Oui, les choses sont complètement entremêlées, effectivement, et donc les armes, par exemple, peuvent réapparaître. Rencontrer un paramilitaire, c'est presque rencontrer son voisin de palier, quoi, finalement.
En fait, on se rend compte aujourd'hui que les paramilitaires, les guerrilleros et l'armée, c'est le même genre. C'est les Indiens, c'est les indigènes, c'est les afro-colombiens, c'est les pauvres. Et c'est pour cela qu'il fallait faire un processus de paix aussi, pour éviter que les pauvres s'entretuent. Parce que les gens de Bogota, richissimes, qui sont contre, leurs enfants, ils sont pas à l'armée. Ils sont tous aux États-Unis à faire des études ou en France.
Et donc cette ancienne guérillera, Johanna, et la journaliste Julieta et le procureur vont tous les trois enquêter sur un étrange fait divers que l'on découvre dès le premier chapitre du roman. Une fusillade mortelle à l'arme lourde qui nous est contée donc au tout début du livre avec des grosses voitures, avec l'intervention d'un hélicoptère. Une vraie scène de film à laquelle va assister depuis un arbre un enfant qui va avoir ensuite une grande importance dans l'histoire. Nous sommes page 15 de votre livre.
Loin de là, dans le vallon, le combat devenait plus féroce et les hommes en nage éclairés par les flammes n'avaient rien d'héroïque. Mais ils résistaient. Depuis cet amas de ferrailles tordues et en feu, un groupe se défendait avec acharnement et disposait, semble-t-il, de beaucoup de munitions. Un échange de regards leur suffisait pour faire mouvement. Le Hummer, on l'a dit, avait été touché et lorsque les flammes diminuèrent, on vit que la carrosserie et le châssis étaient intacts. Impossible cependant d'imaginer que les occupants soient encore vivants après une telle explosion et la chaleur des flammes. Mais ils étaient vivants. L'irruption d'un hélicoptère les surprit tous, un Hurricane 9.2, comme on l'a appris par la suite. Grâce à ses radars, l'aéronef localisa les foyers d'attaque et les détruisit avec ses mitrailleuses calibre 52. La surprise des assaillants, persuadés qu'ils allaient l'emporter, fut énorme. Ils n'arrivaient pas à comprendre ce que diable il se passait. Les deux hommes du bazooka coururent vers le talus pour redescendre dans la rivière, et ce n'est qu'à cet instant qu'ils pensèrent pouvoir affronter l'hélicoptère et peut-être le détruire. Ces secondes d'indécision leur furent fatales. Celui qui portait le bazooka le posa sur son épaule, mais en se voyant pris dans le faisceau du projecteur, il bondit sur le côté et il s'en fallut de peu qu'il tire en sens contraire. Puis, l'un après l'autre, ils furent abattus par les mitrailleuses. Les tirs croisés jaillissaient des profondeurs obscures de la nuit, comme dans le dernier mystère de Fatima. Un troisième assaillant se jeta à l'eau et se fracassa le crâne contre une pierre. Un quatrième put s'échapper, ce qui fut sans doute le cas des autres assaillants, car la fusillade cessa brusquement. Tout s'était déroulé très rapidement. Alors, l'hélicoptère se posa près des carcasses des véhicules. Les portes du Hummer s'ouvrirent et l'enfant, dans son arbre, vit sortir un homme habillé tout en noir et deux jeunes femmes, l'une d'elles en petit maillot de bain à peine couvert d'une serviette. Tous les trois montèrent dans l'hélicoptère qui décolla aussitôt et se perdit dans la nuit. Les gardes du corps chargèrent les cadavres dans le Hummer et le Nissan qui n'avait pas été touché, ramassèrent les armes et partirent en direction de San Andrés de Pesimbala. Peu après, arriva un deuxième groupe à bord des deux énormes camions de dépannage. Ils retirèrent le tronc d'eucalyptus et soulevèrent la carcasse du véhicule détruit, puis firent disparaître minutieusement toute trace du combat. Lorsqu'ils furent partis, l'enfant patienta encore une heure. Puis il descendit de l'arbre et marcha sur le bord du chemin à la recherche de quelque chose. Mais les hommes avaient tout emporté. De la carcasse du Nissan calcinée jusqu'à la dernière cartouche. Il ne trouva pas la moindre douille, il ne restait rien.
Et voilà donc l'apparition de ces hommes en noir qui donnent leur nom au titre français de votre livre, Santiago Gamboa. Votre style, on l'a entendu, hein, il est plein de verve, vous êtes un vrai conteur, il y a de l'action entremêlée avec des descriptions très subtilement dosées, mais aussi quelques digressions qui souvent apportent une vraie touche d'humour. Par exemple, là, juste avant la scène qu'on vient d'entendre, vous nous décrivez par le menu, ça fait un paragraphe, quelques détails de la vie de l'un des gardes du corps qui se fait tuer. Vous parlez du montant de son crédit, hein, il y a le chiffre qui est cité dans le livre, il y a quelques détails sur sa vie sexuelle aussi, et c'est comme ça hein, tout au long du roman. En quoi ces détails, qui interviennent encore une fois en plein milieu d'une scène d'action, sont-ils indispensables, voire utiles ?
Quand on écrit les idées littéraires, c'est ça. C'est de choisir des petits détails qui donnent une touche différente, qui créent un élément de reconnaissance et qui font un peu exploser quelques petites choses dans l'imaginaire du lecteur. Pour moi, c'est ça parce que les arguments, c'est en fait ce qui nous permet de dire des choses aux romanciers. Quand on fait un roman noir, on doit raconter une histoire au lecteur. Il y a un pacte de fiction avec un lecteur. On doit lui raconter, comme disait Céline, il faut l'amener quelque part parce qu'il a déjà payé un billet. Mais pendant qu'on l'amène, on peut lui dire des choses. Alors je peux, en racontant cette histoire, lui dire, écoute, et regarde d'abord ce qui s'est passé dans mon pays, regarde la société humaine, qu'est-ce qu'elle fait des choses bizarres, regarde comment sont les rapports entre les hommes et les femmes, regarde comme un enfant recherche sa mère d'une façon extraordinaire, comment le fait d'être orphelin change la vie et peut-être d'une société entière, hein, parce que la Colombie c'est un pays plein d'orphelins. Et même l'idée, le concept de nation, c'est une nation orpheline.
Et comment est-ce que vous composez vos personnages? Comment est-ce que vous leur donnez chair? Parce que on a vraiment l'impression qu'ils sont tous extrêmement complexes. Vous leur inventez à chaque fois des pans vraiment, encore une fois, très très précis sur quelques détails. Vous êtes un peu comme le procureur, hein, vous êtes un obsédé des détails, Santiago Gamboa. Vous faites des fiches comme ça? Vous bâtissez des personnages très charpentés?
Je ne fais pas des fiches parce que justement, ce que je fais, c'est que je pense beaucoup aux personnages.
Même les personnages secondaires.
Ben justement, les personnages secondaires, pour moi, c'est les plus importants parce que c'est eux qui me donnent l'idée d'un vrai tableau humain. Dans la vie, il n'y a pas de personnages secondaires. Et le roman, pour moi, s'approche énormément à la vie. Et on est tous des protagonistes de certaines histoires et on est tous dans les niveaux secondaires dans d'autres. Donc ça veut dire pour moi que chaque personnage a le droit d'avoir un petit drame ou un petit détail, parce que c'est justement à travers ces détails-là qu'on fait que le lecteur s'aperçoit ou a une proximité au personnage et qu'il le sent comme vivant.
Vous m'en direz des nouvelles est à Saint-Malo pour le festival Étonnant Voyageur.
VGN avec Santiago Gamboa pour son roman Des Hommes en Noir aux éditions Métellier. Écrire comme lire, écrivez-vous, Santiago Gamboa, est un comportement socialement agressif. Vous êtes donc un agresseur.
Je pense que tout ce qu'on fait en solitude est de plus en plus, parce que de plus en plus on est porté à des comportements groupaux, même avec les réseaux sociaux. On est toujours porté au fait à faire partie d'un groupe. Et de plus en plus, celui qui lit, c'est celui qui est tout seul avec ses idées, avec en compagnie d'une voix narrative écrite qui a été pensée pour quelqu'un d'autre que quand on l'a fait, lui aussi, il était tout seul. Donc c'est un comportement, c'est une communication qui n'est pas tout à fait aujourd'hui à la mode, mais que je tiens à souligner et que je pense que c'est une des seules possibilités vraiment d'approcher la condition humaine qu'on a dès aujourd'hui.
Les vies heureuses ne se racontent pas, dit dans le roman un de vos personnages. Johanna, par exemple, elle a été traumatisée par la mort de son père, par une forme d'humiliation sociale aussi qu'il a accompagnée, parce qu'il y a la violence politique, la violence des armes de la guérilla, et puis aussi la violence sociale. D'ailleurs, vous écrivez, il n'y a pas de pire malheur que d'être pauvre, mais être pauvre en Colombie, c'est encore pire.
Parce que justement, les rapports entre les classes sociales, c'est très violent et c'est très humiliant. Et donc, ça explique sa haine et sa décision ensuite de partir avec son frère à faire la guérilla, comme ont fait des milliers et des milliers de Colombiens. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a une grande violence au niveau des rapports sociaux. Et je pense que dans nos pays, c'est peut-être aussi parce que c'est un pays jeune, c'est une république qui a 200 ans, la violence fait partie, et malheureusement toujours, de presque tous les rapports. Et d'autres sociétés, comme ici en Europe, vous avez 1500, 2000 ans d'histoire plus ou moins continuelle dans le même territoire. Et donc, voilà, vous avez fait un parcours assez violent aussi. Jusqu'à hier, on fêtait les 75 ans de la dernière guerre en Europe. Le débarquement en Normandie, dans les 3 premiers jours, il y a eu plus de morts qu'en 50 ans de violence en Colombie. Mais vous avez subi tout ça, et ensuite vous avez vécu, et vous vivez encore, et j'espère que ça va durer, une longue période de paix. Et parce que vous avez déjà compris que certaines choses de vous-même et de la façon dont vous voulez vivre. Nous, on essaye toujours de trouver ces langages-là. J'espère qu'on va le faire en moins de temps.
J'espère aussi pour vous et pour la Colombie. Alors il y a effectivement ces personnages qui sont souvent très violents ou qui sont marqués par la violence, mais tous les personnages sont un peu étranges, sont très complexes. Certains d'entre eux sont extrêmement truculents. Je pense par exemple au pasteur Fritz qui dirige une de ces églises évangéliques qui ont envahi l'Amérique latine. Cette église-là, elle s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Comment est-ce que vous expliquez justement le succès incroyable de ces églises protestantes ?
Ils sont rentrés en Amérique latine dans les années 70, et avec un grand soutien comme une espèce de politique des États-Unis pour faire barrage contre la théologie de la libération, qui c'était un mouvement catholique de gauche. Donc eux, c'était plutôt de droite, c'était des protestants de droite. Aujourd'hui, ils arrivent dans les quartiers populaires, ils commencent à vivre entre les gens pauvres, et ils donnent des solutions de vie à des gens qui ont des problèmes d'alcoolisme. Une femme qui son mari arrive ibre et là-bas, et puis ensuite son fils il est drogadict, et sa fille elle est prostituée, etc. Donc les églises évangéliques, d'une certaine façon, font un travail qui devrait faire l'État et les organisations sociales de l'État. Alors, eux, ils ont pris cette espèce d'absence d'État dans ces côtés-là, et c'est à cause de ça qu'ils ont tellement de succès. Mais ils se font payer. Donc, tous les gens qui ont besoin de cette aide doivent payer les 10% de ce qu'ils gagnent. Mais c'est pas quelque chose de volontaire, comme dans l'église catholique traditionnelle. C'est qu'ils pensionnent directement les gens depuis sa fiche de paix. Donc, ils sont devenus des entreprises économiques. Et puis maintenant, avec un grand pouvoir politique, aujourd'hui la Colombie est en proie de ça, est en proie de... Moi je dirais que le gouvernement actuel de la Colombie, c'est une mafia politique qui est formée de paramilitaires, des églises évangéliques de droite et des latifundistes.
Et c'est donc dans ce contexte que s'ébattent les différents personnages de ce roman qui est vraiment, qui tient à la fois du roman politique, du polar, du thriller, du roman psychologique, un peu historique aussi en raison du contexte. Vraiment énormément de richesse et énormément de plaisir à lire Des Hommes en Noir de Santiago Gamboa qui est paru, je le rappelle, aux éditions Métellier qui fête d'ailleurs cette année leurs 40 ans. Merci beaucoup.
Vous m'en direz des nouvelles. Main d'œuvre.
Fanny Blechner.
Aujourd'hui, je suis
la femme de Frankenstein et la nièce de Gepetto. Je m'appelle Inat Landé. Je suis facteur de marionnettes. Il y a plein de types de marionnettes, de techniques différentes de marionnettes. Bah, on peut faire des marionnettes minuscules comme des marionnettes gigantesques. Les plus grandes que j'ai fait, c'était de 3,50 m et les plus petites, c'était de 20 cm. Voilà. les plus souvent, c'est des marionnettes portées qui sont des marionnettes qu'on a une prise directe dessus et que souvent les manipulateurs comédiens sont à vue. Les gaines, c'est comme les guignols dans les parcs qui sont des gants. Il y a des marionnettes, ce qu'on appelle des marionnettes hybrides, des marionnettes de corps où le comédien va prêter une partie du corps à la marionnette. Par exemple, les bras, c'est les bras du marionnettiste, par exemple. Moi, j'en fais pas toutes. Par exemple, je ne fais pas des marionnettes à fil. Je travaille souvent pour des compagnies de théâtre. Alors, en ce moment, je travaille sur une marionnette pour Frédéric Sontag qui monte l'Enfant Océan. On passe par un leurre, c'est-à-dire par un sort de prototype taille réelle. L'Enfant Océan, c'est un petit enfant de 10 ans, mais il a une très petite taille. Dans le texte, il a 80 cm. Nous, on va le faire 1 mètre pour des raisons de confort de manipulation. Là, le leurre, je peux pas passer énormément de temps. Je suis payée une journée pour le faire. Je récupère des choses que j'ai à l'atelier, un moule de tête. J'ai pris des frites de piscine pour faire les bras et les jambes. C'est du bricolage. Alors, pour, par exemple, l'articulation du genou et l'articulation du coude, c'est la même articulation mais inversée. Donc là, je vais marquer ce que je vais couper. Là, je viens de plier le contrôle de la tête pour le transformer un peu comme une poignée de porte ou une poignée d'armoire ou de tiroir. La saisie de la marionnette est plus facile comme ça et ça ressort moins dans la silhouette. Là, je vais choisir les tubes aluminium que je vais avoir besoin pour le squelette. Pour les pieds du leurre, mais même de la marionnette finale, je vais les sculpter en mousse parce que de toute façon, ils vont être dans une chaussure. Donc, j'ai pas besoin d'une résolution comme pour les mains. Ça se verra pas. C'est avec une chaussette, donc je les sculpte en mousse. Je vais habiller le leurre parce que ça donne vraiment une vraie silhouette d'enfant. Souvent, les costumes finissent la marionnette. Il y a énormément de techniques différentes. On passe de la sculpture à la couture, en passant par du mécanisme, de la vraie structure en métal, en bois, des petits mécanismes, des yeux, de bouche. C'est ça qui me plaît, en fait. C'est le fait de sculpter, peindre, construire, tout ça. L'inconvénient, c'est que c'est très vite le bordel à l'atelier.
Aujourd'hui, j'étais
la femme de Frankenstein et la nièce de Gepetto
sur RFI.
Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Avec nous cette semaine, Amélie Beaucourt, Alain Pilot, Fanny Blechner et Muriel Mahalouf. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour Jean-François.
Amélie, vous nous emmenez dans un instant voir des loups, des antilopes ou encore des éléphants pour une exposition d'art contemporain.
Oui, je vous embarque sur une arche de Noé un peu spéciale puisqu'elle est faite d'animaux en bois, en métal ou en carton. Pour réfléchir à la place qu'occupent nos amis les bêtes dans nos sociétés, ça se passe à la fondation Villa d'Atris dans le sud de la France.
Quant à vous Muriel, vous allez nous faire découvrir des royaumes oubliés.
Statues monumentales, sphinx, hommes scorpions, lions. Non, ces œuvres ne viennent pas des civilisations pharaoniques ni même des phéniciens. On remonte plus loin. Aux Hittites, un empire d'une puissance considérable à la fin du deuxième millénaire avant notre ère, complètement disparu et dont le Louvre expose ses successeurs, les Néo-Hittites.
Avec vous Alain, un chanteur qui se sent plus un artisan qu'un artiste.
Eh oui Jean-François, à la scène comme à la Louisville, facile mais bon j'aime bien, le terme artiste le fait rire et il trouve ça prétentieux, estime qu'un carreleur ou un maçon peuvent faire un beau travail et qu'il n'est pas plus méritoire de faire de la musique qu'un beau mur. Louisville édifie donc son nouvel album, mini pour l'instant, et nous en offre un avant-goût avec ce 6 titres.
Ouvre ton album, écoute bien et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page.
Mais d'abord, on s'intéresse au livre audio. Et ce que l'on entend là, Fanny, c'est un petit peu l'image que vous en aviez.
Oui, une image pas toute récente. Le souvenir des cassettes audio, Il était une fois, puis des contes, lus par Marlène Jobert. Bon, c'était dans les années 90. Depuis, évidemment, le livre audio a évolué. Et pour la première fois se tient le salon du livre audio. C'est en ce moment à Montreuil, en région parisienne, dans le cadre du Festival Vox. Un secteur en pleine expansion. Un Français sur 10 en achète. 18% en ont déjà écouté. Et 21% se disent intéressés. Paul Dubochet est directrice éditoriale de la collection Écoutez lire chez Gallimard et présidente de l'association de promotion du livre audio.
Je ne peux pas dire qu'il est lié au podcast parce que tout est lié, mais le podcast fait partie de ce nouvel engouement et cette visibilité récente, elle est liée à des pratiques de mobilité sociétale qui sont vraiment en train de changer, qui accompagnent aussi la technologie, l'utilisation des smartphones, de toute la connectique, etc. Ça accompagne à la fois un changement de vie des gens, tout simplement, qui bougent plus, qui sont moins longtemps dans les mêmes endroits, qui voyagent plus, qui se déplacent plus, et une évolution de la technologie.
35 exposants participent à cette première édition, dont Mathilde Davignon, éditrice des éditions Braque. Il y avait un véritable besoin, selon elle.
Dans d'autres pays, même très proches, en Allemagne par exemple, ou dans les pays scandinaves, aux États-Unis, le livre audio est extrêmement dynamique, en tout cas est sur une pente croissante. On s'est vraiment rendu compte qu'il fallait faire beaucoup de pédagogie autour de ce livre audio. Et on s'est dit, quoi de mieux qu'un festival au sens très large. Et puis, le lier au Festival Vox pour qu'il y ait vraiment cette mise en pratique de la littérature à voix haute.
Et que sont-elles exactement ces éditions des Braque, Fanny ?
Une maison d'édition créée il y a 10 ans qui s'adresse aux enfants de 0 à 8 ans avec des livres accompagnés de CD et fichiers MP3.
On a vraiment tous les sens en éveil à partir d'histoires qui sont des histoires originales en fait. Et la présence de la musique ou de la chanson est très très forte chez nous et a un pouvoir mémotechnique et d'immersion dans la lecture très très fort. Je trouve aussi que ça gomme un peu les différences entre les enfants, certains qui sont très bons lecteurs ou moins bons lecteurs au même âge, des enfants qui sont un peu dyslexiques ou qui butent sur les mots parce qu'ils manquent de confiance vis-à-vis des mots. Mais en fait, d'entendre le texte, de s'immerger, ils ont quand même ce plaisir de la littérature malgré tout, et forcément ils viennent au texte après parce qu'ils sont en confiance.
Et ça donne ça par exemple.
Si oncle Raskin apprend que tu as coupé un fil de son manteau, dit Greta, il t'arrachera un à un les poils de la barbe et il te les fera avaler avec du piment oiseau.
Un manteau aussi lourd que la mémoire des hommes venus d'un autre temps.
Un extrait de Loin de Garbo aux éditions des Braques, raconté par Jean-Pierre Daroussin, qui a notamment reçu le prix Lire dans le Noir France Culture.
Mais le livre audio, Fanny, ne s'adresse pas qu'aux enfants.
Hein. Non, c'est vraiment pour tout le monde, met en garde Paul Dubochet.
Vous savez, il y a eu une étude qui a été faite il y a 3 ans. Et les études, on peut en penser ce qu'on veut, elles donnent quand même une tendance. Et il s'avère que le lectorat adulte, le profil type de l'audio-lecteur adulte, c'est quelqu'un qui est en pleine maturité professionnelle, en pleine maturité d'âge, entre 25 et 50 ans. Très bon lecteur, qui lit beaucoup de livres et qui donc trouve dans le livre audio à la fois une autre pratique et un autre usage du livre. Ça veut dire que le livre audio n'est pas une alternative au livre, c'est pas fait seulement pour les gens qui ne peuvent pas lire, mais c'est fait aussi, j'ai envie de dire surtout, mais aussi pour les gens qui lisent beaucoup et qui aiment lire.
Et donc ce salon du livre audio, il s'inscrit dans le cadre d'un festival plus large.
Le festival Vox, un festival de lecture à voix haute créé en 2011 par Jean-Marie Ozanne, longtemps libraire à Folie d'Encre et éditeur, et le programme s'annonce haut en couleur.
Par exemple, on a des jeux Vox Olympiques. Eh bien, je vous donne un texte et on va chronométrer le temps que vous mettez à le dire. Ou bien alors, je vous donne un texte et vous allez lire une ligne sur deux. Et des fois, ça donne des choses assez incroyables. Ça veut dire que l'activité de lire peut être en elle-même déjà un jeu. Venir écouter un texte dans le noir, c'est se donner la possibilité de décupler son imaginaire. Après, il y a des lectures qui sont des lectures simples. On va avoir une Batacuda haïku.
Et l'un des objectifs pour lui, c'est de toucher vraiment tout le monde. Il nous raconte ce moment lors d'une précédente édition.
Il y a un immense type à un moment qui passe et puis il entend, c'est sur la voie publique, hein, il entend une lecture, il s'assoit, très baraqué, le garçon. Il avait une chaîne tatouée sur son biceps et dès qu'il bougeait, on avait l'impression que la chaîne allait éclater. Et puis, il est resté, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes. Bon, à un moment, il a sorti son téléphone, il a un peu joué, il l'a rentré, il est parti. Je ne sais pas ce qu'il aura retenu de cette lecture. Mais s'il est resté, c'est qu'il y a eu quelque chose quand même. La culture, dont le livre est certainement le pilier, si elle ne va pas au-devant des gens, ça n'a pas de sens.
Jean-Marie Ozanne, à votre micro, Fanny, ce salon du livre audio et le festival Vox sont donc gratuits. Hein, ça se passe en banlieue parisienne à Montreuil jusqu'à dimanche. Dimanche où il y aura notamment Daniel Pénac qui lira un texte de son choix. C'est une véritable remontée dans le temps que nous propose le musée du Louvre en ce moment, Muriel, avec l'exposition « Royaumes oubliés de l'Empire Hittite aux Araméens ». Alors, qui sont pour commencer les Hittites, Muriel ?
Ce sont un peuple de langue indo-européenne qui forme un royaume dans la Turquie actuelle durant le deuxième millénaire avant Jésus-Christ et qui vont conquérir des territoires dans la Syrie actuelle. Un empire d'une puissance considérable mais qui a complètement disparu. On suppose que c'est en raison de famine ou d'attaques de peuples voisins.
Mais alors, s'il ne reste rien de ces populations, comment est-ce qu'on a appris leur existence ?
Mais en réalité, bien que ces peuples soient évoqués dans les textes égyptiens et dans la Bible, ce n'est qu'au XIXe siècle qu'on redécouvre cette civilisation fondatrice de cette région du Moyen-Orient. Vincent Blanchard, conservateur des antiquités orientales au musée du Louvre et commissaire de l'exposition.
Quand en 1831, un explorateur français, Charles Texier, découvre le site de Boëscueil, qui s'avère être le site de la capitale des Hittites, en fait, il ne sait même pas quelle ville c'est. Pour lui, c'est une autre ville de l'Antiquité. Il a lu Hérodote. Donc, au départ, il pense que c'est la ville de Tavium, puis Pterium. Et d'ailleurs, les premiers monuments hittites qui sont découverts dans le courant du XIXe siècle, on ne sait pas que ce sont des monuments hittites, parce que tout simplement, on ne sait pas ce que sont les hittites. Pourtant, le texte biblique garde quelques références aux hittites, mais en réalité, pas aux hittites de l'Empire, mais aux néo-hittites, des royaumes, justement, dont parle l'exposition. Donc, c'est vraiment l'extrême fin du 19e siècle que des savants se disent, mais après tout, ces sites de Carchemish, ce site de Boëscueil, tous ces sites doivent appartenir à une seule et même culture, une culture dont parlent les Égyptiens dans leur correspondance, qu'ils appellent le Rheta, et que donc, en référence au texte biblique, on va appeler les Hittites.
L'exposition du musée du Louvre montre donc des vestiges des états néo-hittites et araméens, nés des ruines de l'empire hittite en Anatolie et en Syrie.
Et qu'est-ce qu'on peut voir, Muriel ? Quelles sortes d'objets ?
Des statues monumentales, des sphinx, hommes scorpions, lions, des œuvres qui ont d'ailleurs eu une grande influence justement sur l'art égyptien et mésopotamien.
L'art monumental hittite, et l'art hittite tout court d'ailleurs, qui lui-même est inspiré de toute la culture syro-anatolienne des siècles précédents, va durablement influencer les petits royaumes néo-hittites et araméens qui vont naître après sa chute en 1180 et qui vont reprendre ce goût pour de grands blocs sculptés qui décorent l'entrée des villes et des palais ainsi que l'entrée des temples, ce goût pour les animaux gardiens qui protègent symboliquement l'entrée de ces monuments importants. Et effectivement, tout l'art iconographie hittite vont se retrouver mêlés également à d'autres influences dans l'art des royaumes néo-hittites araméens de l'âge du fer. Le style, lui, par contre, va beaucoup varier, mais les grandes thématiques comme les animaux gardiens ou les représentations de rois et de divinités, elles, vont perdurer.
Et parmi les œuvres phares de l'exposition,
c'est un ensemble d'orthostates. Alors, ce sont des dalles de pierre que l'on mettait à la base des murs en briques crues pour les protéger, notamment de l'eau. Et ces dalles de pierre, elles étaient souvent sculptées, décorées. Et l'ensemble des orthostates de la façade sud du palais de Kapara, eh bien, c'est un ensemble iconographique incroyable. On y voit des scènes extrêmement variées. On a des scènes de la vie quotidienne, on a des animaux, on a des scènes de guerre, on a des scènes de culte. On a des dieux, on a des animaux mythologiques. Bref, tout un répertoire absolument incroyable, plein d'influences diverses, qui est une sorte de résumé iconographique de l'art du Proche-Orient, qui se trouve sur ces petits orthostates, à la beauté certes un peu brute et hiératique, mais qui sont en même temps d'une incroyable richesse.
Et combien d'œuvres peut-on voir dans cette exposition, Muriel ?
Il y a près de 300 œuvres, dont plus d'un tiers des collections du musée du Louvre. Les autres sont des prêts, notamment du Pergamon Museum, qui conserve des vestiges de Tel Halaf, tout au nord de la Syrie, à la frontière turque. Ce site a été découvert par le baron von Oppenheim en 1899. Le diplomate allemand passe alors un accord avec le mandat français en Syrie pour emporter une partie de ses découvertes en Allemagne. Le palais araméen du roi Kapara et ses impressionnantes statues monumentales qui connaîtront une histoire mouvementée.
Le baron Max von Oppenheim fait installer les œuvres dans une ancienne fonderie qui devient donc le Tel Halaf Museum, où il restitue la façade du palais nord du roi de la façade nord du palais de Kapara, et il va faire visiter ce musée qui restera assez confidentiel. Et puis le problème, c'est que en 1943, Berlin est bombardé, et vu du ciel, ça ne ressemble pas à un musée mais bien à une fonderie. Donc une bombe au phosphore explose dans le musée, créant un terrible incendie que les pompiers vont venir éteindre, et le choc thermique entre la chaleur de l'incendie et le froid de l'eau fait que toutes les sculptures en basalte vont éclater.
27 000 fragments de basalte seront par la suite stockés dans les caves du Pergamon Museum. On les ressort 60 ans plus tard pour un immense travail de restauration qui durera 10 ans. Aujourd'hui, on peut voir dans l'exposition du Louvre ces magnifiques statues, gigantesques puzzles reconstitués. Le reste du palais se trouve aujourd'hui à Alep, en Syrie. Et le musée du Louvre, avec cette exposition, poursuit son travail de mise en valeur de patrimoine de l'humanité menacé par la guerre.
Muriel Mahalouf, dans le Café Gourmand de VR. MDN, une exposition que vous nous recommandez donc au musée du Louvre jusqu'au 12 août. Qu'ils soient à plume ou à poil, apprivoisés, câlins ou plutôt farouches et féroces, nos amis les animaux font partie intégrante de nos vies, et jusqu'au 3 novembre, une exposition d'art contemporain leur rend hommage. Amélie, elle se déroule à la Fondation Villa d'Atrice, c'est à Lille-sur-la-Sorgue, près d'Avignon, dans le sud-est de la France, et vous êtes donc allé visiter pour nous cette drôle de ménagerie.
Un zoo un peu spécial, Jean-François, puisqu'on y trouve des poissons géants, des chevaux en bois, des chiens robots, des renards empaillés ou encore des boas en plumes. Toutes sortes d'hybrides qui prouvent qu'au fil des siècles, nos amis les animaux n'ont cessé d'inspirer nos artistes et de bouleverser nos visions de la société.
Notre langue en est d'ailleurs un formidable exemple. Elle regorge d'expressions qui mettent en scène nos amis les bêtes, avoir un œil de lynx, poser un lapin ou encore être malin comme un singe, par exemple.
Un vocabulaire, Jean-François, qui est tout de suite moins sympa quand on parle des femmes.
Ah oui.
La mante religieuse, la veuve noire, la tigresse, la hyène ou encore la louve. Elle symbolise pourtant la fertilité et la force, mais lorsqu'on dit d'une femme qu'elle est une louve, c'est le côté féroce et possessif qui prime. Alors pour combattre ces inégalités, la plasticienne Katia Bourdarel a fabriqué une majestueuse louve noire, parée de broderies et de bijoux. Une louve comme elle, qui assume son côté guerrier.
Moi, j'aurais tendance à le prendre d'une façon positive, parce que je me dis que finalement il faut défendre l'idée d'être une guerrière et puis récupérer des territoires qui nous ont été pris, et que renouer avec ses instincts primaires, avec l'animalité, pourquoi pas. On est encore malheureusement en France et dans tout autre pays, les femmes artistes sont très mal représentées sur la scène de l'art. En plus, cette pièce-là, elle est arrivée à un moment où c'était une sorte de cri, quoi, de dire oui, moi aussi j'existe. Quand on regarde la pièce, on sent bien qu'elle est, il y a plein de tiroirs, on sent qu'elle veut être une guerrière et en même temps elle veut plaire, elle veut qu'on la regarde et elle veut dominer en disant mais oui, vous me regardez, tout ça paraît très docile, mais derrière le masque de la docilité, il y a aussi quelqu'un qui veut exister en toute liberté et qui a le droit à cette existence-là.
L'art contemporain est ici au service de l'égalité femmes-hommes, Amélie, mais il est aussi utilisé pour dénoncer la barbarie des hommes envers les animaux, bien sûr, mais aussi envers eux-mêmes.
Oui, c'est sur cette thématique que se questionne l'artiste Harald Fernagu, qui expose à la Fondation un masque d'éléphant, un masque baoulé, ça vient de Côte d'Ivoire, qu'il a recouvert de coquillages et de coraux, deux objets qui n'appartiennent pas du tout à sa culture à lui, mais que sa culture s'est réappropriée sans vraiment demander l'autorisation.
Et en fait, on se rend compte que la colonisation a duré longtemps, mais elle n'a pas créé d'objets spécifiques en Occident à la colonisation. Par contre, elle possède 90% du patrimoine africain. Et en fait, ce patrimoine est devenu, pour moi, est devenu un objet postcolonial, dans le sens où, en fait, c'est nous qui l'archivons, c'est nous qui le trésorisons. Et en fait, le problème que ça pose, c'est qu'aujourd'hui, un jeune de 30 ans en Afrique ne connaît pas sa culture, a quasiment aucune chance d'avoir vu un vrai masque ou une vraie statuaire de son village, parce que c'est nous qui les avons.
Une exposition d'art contemporain dans laquelle on croise du beau monde, des grands noms de l'art contemporain européen, comme Niki de Saint-Phal, mais aussi, Amélie, des artistes locaux, comme la plasticienne Cyrice Vell.
Oui, une artiste qui n'a pas choisi un animal en particulier, mais 12, ceux qui guident les hommes et nourrissent les contes et légendes qu'ils se transmettent depuis la nuit des temps. Et cette idée, elle l'a eue complètement par hasard, en faisant une étonnante trouvaille dans une brocante du sud de la France.
J'ai repéré dans une petite corbeille, à peu près 2-3 ans, des petits soldats. Enfin, pour moi, c'était des petits soldats. Et puis quand j'ai commencé à vouloir les nettoyer, je me suis aperçue d'abord que c'était africain. Quel pays, peut-être Dogon, je ne suis pas sûre. Et je me suis aperçue que c'était des petits bonshommes qui avaient chacun un masque différent d'un animal mythique de l'Afrique. Mais j'ai noté, parce que j'avais fait des recherches, par exemple, l'antilope mythique est chargée par le dieu créateur de protéger le soleil du renard, qui symbolise le désordre et l'insoumission. Le bœuf protège l'homme et sa famille. Le chacal communique au divin les desseins divins. Le crocodile, animal sacré, indique le point d'eau, évidemment. La grenouille est porteuse du message de vie. Le cheval est emblème de puissance. L'éléphant est la base des rites, etc. etc. Et en fait, il y a 12 petits personnages et c'est exactement tout cela.
Le problème, c'est que tous ces animaux emblématiques sont aujourd'hui gravement menacés, alors elle les a isolés sur un rocher, comme une arche de Noé en fait, en se servant exclusivement de matériaux recyclés.
Et cette démarche écologique, Amélie, on la retrouve aussi chez d'autres artistes ?
Bien sûr, parce que difficile d'évoquer la biodiversité sans parler de la destruction massive de son habitat, qu'elle soit due au réchauffement climatique ou au parking de supermarché qu'on construit sur son sol. L'une de ces espèces, Jean-François, c'est la fourmi. Celles qu'on rencontre à la Fondation d'Atrice sont en métal et font 1 mètre chacune. Et elles ont été installées par un passionné qui s'appelle Nicolas Herès.
La fourmi, pour moi, c'est vraiment symboliquement, ça représente un peu la nature qui va reprendre le dessus sur la construction humaine. Je trouve que la fourmi est partout. Et justement, là, de l'avoir fait justement très grande en 1 mètre, on se rend vraiment compte, parce que d'habitude, on n'y fait pas attention à ces pauvres petites bêtes. Et là, vraiment, on se rend compte que c'est là et c'est tout autour. C'est vraiment ma signature, c'est un travail que je fais depuis une dizaine d'années, mais sinon après j'ai tout un travail où la nature est vraiment omniprésente, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a vraiment de plus beau et d'apaisant, vraiment. Les meilleurs moments, je trouve, c'est vraiment perdu au milieu de la nature, tranquille, avec juste le bruit du vent et des feuilles.
Un message écologique donc qui, d'une part, salue la beauté de la nature qui nous entoure et nous remet surtout, nous, petits êtres humains, à notre place.
Amélie Beaucourt dans le Café Gourmand de VMDN.
Lentement s'est voilé, le soleil s'en est allé.
Et l'étoile Louisville dans VMDN sur RFI, grâce à vous Alain Pilot. Et ce titre, eh bien, il s'agit des prémices d'un disque attendu à l'automne.
Louisville qui estime que dans le bobotisme actuel, on encense beaucoup les musiciens et pense que c'est un peu de la masturbation intellectuelle, tout comme dans les cocktails ou après les vernissages, on s'ennuie. Dans ses chansons, il n'a pas l'impression d'être un toto consensuel. Il suffit de lire entre les lignes. Louisville met son petit grain de sable à l'édifice de la contestation. Laquelle fallait-il voir dans ce et puis demain.
Là, il faut que je réfléchisse. Je ne sais pas s'il y avait de la contestation. Il y avait quelque chose de comment. C'est plutôt de l'ordre de la constatation. Que les limites changent de place et qu'on est toujours à marcher dans ce monde-là et que tout se bouscule. Et je crois que c'est avec l'âge qu'on se rend compte d'une chose, c'est que on marche, tout se bouscule autour, parce qu'en fin de compte, on commence à avoir une. Il commence à y avoir une épaisseur de vie qui fait que on a vu toutes ces évolutions, tous ces bouleversements, toutes ces révolutions et tout ça. Et on se rend compte que à notre échelle, on est bien impuissant. Et la seule force qu'on peut avoir, c'est l'observation. Et relater ce constat-là.
Elle se dit qu'il dit, qu'il ne dit, mon ne dit. Ce n'est pas du déni, c'est juste un oubli. Elle voudrait oublier sa
la vision du matin et la fille du train, la séduction train-train.
La fille du train, Louisville, qui ne peut pas s'empêcher, Alain, de coucher ses tourments sur le papier.
Une façon pour lui d'exprimer ses fantasmes, ses angoisses et ses révoltes. Quelles étaient-elles et quels étaient-ils cette fois?
J'ai quand même été beaucoup plus soft que d'habitude. J'ai pas trop exprimé mes tourments parce que peut-être j'en ai de moins en moins. J'ai exprimé l'amour que je portais à une certaine personne. J'ai exprimé le vide lié à la perte de d'un être cher, en l'occurrence mon père. Je me suis barré sur une maladie, Alzheimer. J'ai vraiment parlé de choses très très éclectiques. J'ai même raconté l'histoire d'un commandeur roman que j'ai adoré. Donc et puis en tout dernier, j'ai composé une musique parce que je voulais rendre hommage à un pianiste latino que j'avais vu une fois et qui m'avait totalement subjugué. Et bon, je fais pas pareil que lui, mais c'est un hommage à lui. Et puis c'est un hommage aussi à un ami qui est un grand pianiste et puis qui est dans une passe difficile sur le plan de la santé.
Raphaël Louisville, dans le titre qui ouvre ce mini-album, Qu'est-ce que tu me trouves? Son chant m'a semblé très flamenco. Ai-je bien vu? Et si oui, que représente ce genre musical pour Louisville?
Eh ben voilà, c'est ce qui est important, c'est de partir dans des interprétations très 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 subjectives de la part de l'auditeur. Et moi, c'était pas du tout ça, c'était un petit hommage. Bon, c'était déjà une chanson d'amour, ma chérie, hein, voilà. Ça c'est dit. Et puis... c'était aussi un hommage à Bowie et cette faculté qu'il avait de faire scintiller ses histoires en toute simplicité. Mais par contre, les renversements d'accords, ces deux accords qui fluctuent sans arrêt, c'est très espagnol. Oui. Mais c'est tout. Et vous voyez, vous avez ressenti une chose, et ça c'est très bien.
Qu'est-ce que tu me trouves, dis ? Qu'est-ce que tu me trouves, dis ? Qu'est-ce que tu me trouves, dis? Qu'est-ce que tu me trouves, dis?
Dernière question, et puis demain?
Justement, demain c'est l'album, demain c'est des docs, demain c'est la tournée d'automne pour la promotion de l'album qui se prépare, c'est des tas de choses et j'espère encore d'autres belles rencontres et des beaux thèmes de création musicale.
Les archanges sont des femmes, tu es le fond et la lame, et j'entends toutes ces âmes qui t'appellent et te réclament.
Qu'est-ce que tu me trouves, Louisville, tiré de son nouveau mini-album. Et puis demain, Louisville qui sera donc en concert, notamment le 21 septembre, au Petit Bonheur, à Curti-Vergy, en France. Vous savez précisément où c'est, Alain?
Du tout.
C'est en Bourgogne, le 27, au théâtre Multipass, à la Chaux du Milieu, en Suisse.
En Suisse.
Voilà, le 28, retour dans l'Hexagone, à la Smack Souris Verte d'Épinal, dans les Vosges, bien sûr. Mm-hmm. Ensuite, les Alpes, le 22 novembre, au Cabaret Pop, à Gap. Et le 23, à l'espace Mathieu Côté, à Rompon, qui est, comme vous le savez, Alain,
à côté de Pont-Rond.
Pas très loin de... Non, pas du tout. Pas très loin de Privas, dans l'Ardèche. Oui. Voilà. Dans le cadre d'un festival intitulé « Si les vaches avaient des ailes », comme c'est beau.
Qu'est-ce que tu me trouves, dis ? Qu'est-ce que tu me trouves, dis ?
Les vaches avaient des ailes, on n'en est toujours pas revenu dans VMDN. Fanny, Amélie, Muriel et Alain, merci beaucoup. Dans une poignée de secondes, le journal. On se retrouve lundi avec l'ancienne ministre française de la culture, Françoise Nyssen. Elle publie Plaisir et nécessité chez Stock, un ouvrage dans lequel elle livre une part d'intimité et revient sur son parcours comme ministre, mais aussi comme éditrice. Bon week-end à tous et vous m'en direz des nouvelles.